Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est une nouvelle qui est tombée. En cours d'après-midi, on a décidé de rétablir et de mettre fin donc au gel de financement qui allait jusqu'à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. En clair, c'est l'UNRWA qui est cet organisme qui s'était retrouvé dans, au cœur de la controverse quand même là, dans les derniers mois.
Et pour cause, il y avait quelques-uns. On dit que c'est pas un nombre sur l'ensemble de ses employés, des membres, c'est pas si énorme. Mais ce qu'ils ont fait est tellement grave, ils ont participé aux attaques du 7 octobre. Là.
Exactement, les attaques du Hamas du 7 octobre, selon là, des allégations amenées par Israël, au départ, 12 des employés de l'organisme qui auraient participé à tout ça. Là. Un organisme, on se comprend, qui est sur le terrain en Palestine, qui est sur le terrain...
qui est infiltré par le Hamas, visiblement. Là. Bon. Tu te dis jusqu'où, comment, est-ce que... Puis une des craintes qu'on a, c'est que l'aide qu'on donne à la Palestine, qu'on donne à Gaza... soit détourné vers le Hamas et ça aille pas vraiment aux populations qui sont dans le besoin. Fait que veux-tu créer plus de suspicions sur le fait que l'aide, il y a un risque qu'elle soit détournée que d'avoir dans l'organisme des gens comme ça qui sont infiltrés, là?
Ouais, surtout qu'il y avait des précédents, Mario, là, des vidéos qui avaient fait le tour du monde, on s'en souviendra, là, de tuyaux, entre autres, là, qui avaient été payés, commandités par de l'aide française, qui se rendait jusque dans la bande de Gaza pour faire justement un réseau d'aqueduc, puis qui servait finalement, là, il était scié, enlevé pour servir de comme de corps, si on veut, pour fabriquer des roquettes, là, pour être capable d'en envoyer en Israël. Bref, donc on a eu toutes sortes de ces cas comme ça qui ont mené, après les allégations, à une enquête qui a été lancée sur l'organisme là, de l'UNRWA, qui est finalement revenu, donc pas blanchi, mais on va ramener les fonds du côté du Canada. Ça a été amené cet après-midi.
On dit avoir les assurances que l'argent, que c'était... un cas isolé ou une aile isolée, ou je sais pas comment appeler ça, et que l'organisme, on est confiant qu'il est... ben, en fait, je pense que d'abord, on se rend compte que c'est comme le seul. C'est le seul gros organisme de cette dimension-là. Je pense qu'il serait difficile d'apporter de façon quantitative une aide à la population de Gaza sans cet organisme-là.
C'est effectivement ce qui est difficile, parce que c'est pas la première fois qu'on se met à couper des financements du côté de l'organisme. En 2010, le Parti conservateur de Stephen Harper l'avait fait aussi. On avait décidé de couper complètement les vivres. Ça avait été ramené après ça par Justin Trudeau en 2016. Là, il y a eu des allégations. On a décidé de mettre ça sur pause à nouveau. Enquête, là, on remet les fonds. Puis il y a beaucoup, là, les plus grands bailleurs de fonds, là, les autres pays qui supportent avec beaucoup d'argent cet organisme-là, eux aussi avaient arrêté là, de le financer, entre autres les États-Unis. Mais c'est ça, on se rend compte qu'il n'y a pas grand moyen, à part eux, sur le terrain pour se rendre puis être capable d'acheminer de l'aide. Puis de l'aide, Mario, en ce moment, de l'aide humanitaire qui est essentielle. On parle d'une situation qui est catastrophique. On parle d'enfants, de jeunes, de femmes qui meurent de faim, littéralement, en ce moment. Là, on est rendu à cette étape-là là, de la famine sévère et aiguë. Donc, on a annoncé du même souffle aussi que l'armée canadienne va prêter 300 parachutes à l'armée jordanienne, qui, eux, vont parachuter de l'aide humanitaire à partir du ciel. Ce qui n'est pas une technique toujours si fiable que ça, Mario, là, on se comprend. C'est A, une fraction de ce que pourrait être l'aide terrestre, l'aide qui viendrait par la mer également. Mais c'est aussi dangereux. Là. On faisait état aujourd'hui, là, selon certains médias, entre autres là, dans ce coin-là au Moyen-Orient, de caisses là, parachutées comme ça, dont le parachute s'est pas ouvert par l'armée américaine, qui ont tué des gens. On parlait de 5 morts aujourd'hui. Donc, on se comprend, là, c'est pas la solution.
Mais hier, quand même, Joe Biden a annoncé là, un port au large de Gaza qui allait servir, qui allait amener un nouveau chemin d'approvisionnement. Là, qui le temps de mettre ça en place, évidemment.
Oui, puis même aujourd'hui, Mario, là, je disais, les conservateurs avaient déjà là, gelé ça il y a quelques années. On a quand même eu beaucoup là, de brasses camarades autour de ça. Il y a même des députés libéraux là, dans le camp libéral eux-mêmes qui ont dénoncé cette décision-là.
Non, c'est l'organisme est controversé. J'ose me rassurer en me disant qu'avec ce que vient de vivre cet organisme-là, qu'il ait eu un peu sa leçon et qu'on va être prudent à s'assurer qu'on fait de l'aide humanitaire puis qu'on s'associe pas avec des terroristes dorénavant. J'ose imaginer.
Tout savoir en 24 minutes.
Puis c'était occupé du côté des affaires internationales du Canada parce qu'on a aussi fait aujourd'hui un avertissement qui a été lancé du côté des ressortissants canadiens qui pourraient se trouver en Russie et particulièrement à Moscou.
Il doit-il en avoir tant que ça? J'ai vu l'avertissement, puis je me suis dit, y a-tu bien des Canadiens qui sont... Tu sais, tu penses pas que tu peux être touriste en Russie présentement? Peut-être que si t'as de la famille...
Oui, je pense qu'il y a encore des moyens là, de se rendre jusqu'en Russie, oui. Mais avec le contexte de la guerre... Disons que c'est pas recommandé à personne. Là. Puis déjà, du côté d'Affaires mondiales Canada, c'est déconseillé, là, fortement déconseillé aux Canadiens de se rendre en Russie. C'est conseillé, même si vous trouvez sur le territoire russe, de quitter à tout prix puis de vous rendre jusqu'au Canada. Puis si vous êtes encore là, mais on continue quand même. On n'abandonne pas du côté des Affaires mondiales Canada.
Fournir les avertissements.
Voilà. Puis l'avertissement aujourd'hui, ben, c'est un risque terroriste imminent. Un avertissement qui avait déjà été émis par les États-Unis. Donc, on a emboîté le pas. Le Royaume-Uni ont fait la même chose avec le ressortissant également. On dit qu'on aurait eu des informations comme quoi, à Moscou, dans les prochains jours, il y aurait une attaque terroriste imminente. Il faut comprendre, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait une alerte du genre que ça se produit. Je rappelle qu'il y a quelques mois de ça, Mario, il y avait une alerte de risque ici. Terroriste. Exact. Ici, au Canada, qui avait été émise, entre autres, par le Royaume-Uni. Donc, on a, tu sais, c'est quand on a des informations comme ça, on décide de faire des avertissements, puis on dit du côté des renseignements russes qu'on aurait déjoué une fusillade qui était préparée contre une synagogue, entre autres, à Moscou. Donc, ça reste à voir, mais c'est quand même spécial d'avoir un avertissement comme ça, surtout en Russie, quand on se dit, ben, je sais pas trop qui est là-bas, puis à qui est cet avertissement, mais bon.
Tout savoir en 24 minutes.
Continue aussi aujourd'hui de se poser des questions, hein, de chercher des réponses, particulièrement autour de tout ce qui entoure le massacre qui a été commis à Ottawa dans une famille d'origine sri-lankaise. Je rappelle les faits, là. C'est une boucherie là, vraiment qui s'est produite au couteau, alors que tu as la mère de famille, ses quatre enfants, là, trois filles, un garçon qui sont décédés, dont un bébé là, de 2 mois et demi, un ami de la famille qui se trouvait sur place et le père de la famille qui est le seul survivant, là, outre l'assaillant dans cette histoire-là. Et là, on n'a toujours pas de motif, Mario. Là. Toujours pas de motif de l'attaque.
Mais les gens qui sont avec nous à la télé, vous avez l'article du journal « Victime de sa générosité ». Et j'avoue, moi, que c'est ce qui m'a arraché le cœur. Ce jeune homme là, de 19 ans qui est l'auteur, qui serait l'auteur, qui est accusé de meurtre au premier degré, il l'hébergeait.
Oui.
Ils n'ont aucune obligation à lui. Ils ont, semble-t-il, c'est des gens impliqués dans la communauté. Fait qu'il y avait un jeune du Sri Lanka. Eux sont là depuis 3 ans, à peu près, au Canada.
Oui.
Un jeune du Sri Lanka débarque comme étudiant étranger. Et il accepte de l'héberger.
Oui. Ils disent...
Puis il se retourne contre eux. Puis il assassine toute la famille, sauf le père. Ben, je pense que le père, il a essayé, il n'a pas réussi, parce que c'est ce que je déduis. Là.
Mais c'est ce qui a été rapporté aujourd'hui, là, parce que les informations, entre autres, arrivent du père lui-même, là, qui est à l'hôpital dans un état stable, mais on parle de blessures sévères. Là. Il a été blessé au visage, à la poitrine, au dos. Puis semble-t-il qu'il aurait eu 2 doigts coupés aussi là, dans l'attaque. Là. Donc, il est vraiment mal en point. Mais il aurait été capable de parler à un moine, entre autres. Quand je dis un moine, c'est parce qu'eux fréquentaient un monastère bouddhiste dans
le
coin.
Parce que le Sri Lanka est bouddhiste à, je sais pas combien, 70-80%. Au niveau religieux, là, ils sont beaucoup bouddhistes. Donc ça, c'était une famille qui était bouddhiste. Donc, le moine semblait quand même un peu... Peut-être lui quand même qui a été le lien, là, dans la communauté, on dit qu'il était impliqué, peut-être le lien avec ce jeune étudiant. Lui arrive du Sri Lanka, vient étudier au Canada, doit chercher des repères.
Et arrive dans la famille qui a même, là, on parle de la générosité, Mario, selon ce qu'on raconte, la famille aurait fêté la fête du jeune homme là, qui venait d'avoir 19 ans, le Febrio de Zoiza, qui est le suspect numéro 1, ben, le seul suspect dans cette histoire-là. C'est fou, là.
Il disait qu'hier, il a été accusé, pour le juge... On nous dit qu'en justice, le juge ne va jamais déposer des accusations si la personne devant n'est pas consciente de ce qui se passe ou ne comprend pas ce qui lui arrive. La nature même des accusations, il faut que l'accusé comprenne ce qui se passe. Mais il faut être fou, là. Excuse-moi, mais... Des fois, j'essaie de tout imaginer les possibilités. Mettons que quelqu'un a été méchant avec lui, quelqu'un a fait un coup, même une... Mais je dis, à la limite, ça serait venger sur cette personne-là.
Comme bébé de 2 mois.
Comment tu frappes un bébé de 2 mois avec un couteau? Faut que tu sois fou, là. Faut que tu sois fait. Faut que t'aies une perte de compte. C'est impossible. J'essayais d'en virer ça de toi et bord, mais je me disais, ce matin, je recevais à LCN une psychiatre. Elle disait, bon, elle était, vraiment, elle sait pas plus, mais on va dans des hypothèses de ce qui peut arriver pour créer telle violence.
Ouais.
Elle disait, le plus probable, c'est un mélange, là, premier épisode majeur, soit schizophrénie, psychotique, mélangé avec
la drogue.
Consommation de substances. Peut-être plus forte de la drogue, plus forte que ce qu'il pensait. Puis là, tout a disjoncté. On est soit dans des hallucinations. Parce que, je veux dire, je comprends, on dit, tu sais, il y a des humains qui sont méchants, tu sais, mais je veux dire, un jeune de 19 ans, il vient aux études au Canada, on l'héberge et tout le monde. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun bon sens.
Parce que les seules pistes qu'on a dans cette histoire-là, c'est que là, semble-t-il que depuis qu'il était arrivé, mais les choses ont empiré dans sa vie personnelle à lui. Là, il y avait des problèmes à l'école, venait tout juste d'abandonner ses études, semble-t-il aussi, qu'il avait des pensées suicidaires, qu'il avait un peu le mal du pays, il ne sentait pas bien. Mais outre ça, comme je disais, pas de conflit, semble-t-il. Le père a déjà rencontré les parents du suspect au Sri Lanka là, avant qu'ils viennent habiter chez eux. Toutes les relations étaient bonnes. Qu'est-ce qui a pu arriver? Et pour l'instant, le mystère reste entier. Mario va probablement le demeurer jusqu'à ce qu'on ait le procès plus de manière plus ample qui va révéler des détails. Vraiment, une boucherie à Ottawa, ça arrache le cœur.
Histoire horrible.
Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
Dans les affaires judiciaires, plus près d'ici, on parlait tantôt avec Stéphanie de white lining, mais c'est pas juste dans ces situations-là où on a des chauffeurs sur les routes au Québec. Et là, il y en a un qui vient d'écoper de 4 ans de prison, là, 4 ans et 8 mois de prison ferme pour négligence causant la mort, alors qu'il roulait dans une zone de 50 km/h en 2021 à 148 km/h. Là. On se comprend, c'est le triple de
en
la
ville.
Limite
permise. 148, parce qu'une zone de 50, généralement, c'est en ville. Ouais, c'est milieu habité. Là.
C'est à Terrebonne. Il y a peut-être des gens qui se souviennent de cette histoire-là, Mario, particulièrement pour la vidéo de l'accident. Là. On a eu l'occasion de visionner là, ce qui se passe. Puis d'ailleurs, sur le site du journal TVA Nouvelles, si vous voulez aller voir, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur comme vidéo, alors qu'on a là, un conducteur qui, M. André Lavergne, à l'époque, père de famille de 55 ans, on le voit, fait son arrêt obligatoire sur le boulevard Laurier à Terrebonne. Regarde des deux côtés, tourne à gauche. On comprend, là, il a regardé. Il n'y a aucune chance d'avoir vu le véhicule qui s'en venait vers lui. Là. Une vitesse ahurissante, ça a projeté le véhicule dans lequel se trouvait André Lavergne sur 75 mètres. Là. On l'a retrouvé 75 mètres plus loin, embouti dans un cabanon. On décrivait les dommages là, pendant le procès. Le volant là, était rendu du côté complètement du passager, tellement il s'est déplacé là, dans la collision. Vous pouvez imaginer à quel point c'est un impact puissant qui est venu malheureusement tuer la victime presque sur le coup. Là,
mais donc, celui qui était condamné, lui, dans l'accident, n'est pas mort, là?
Non, Michel Saint-Denis Vaudry, aussi étonnant que ça puisse paraître, cet homme-là qui a écopé justement de la peine de 4 ans de prison, lui s'en est sorti de tout ça. Là. S'en est sorti... Pis...
D'un accident à 148.
Alors qu'il roulait à 148. Puis là, on s'explique mal à ce moment-là, ben pourquoi il roulait aussi vite? Parce que les policiers sont arrivés presque sur le coup. Ils ont entendu le bruit du véhicule qui roulait à cette vitesse-là. Puis ils ont décidé de se rendre dans le coin. Et là, ben on se rend compte que non seulement, ben il n'y avait même pas de permis de conduire valide. Il n'était pas censé conduire parce qu'il y avait des amendes impayées en trop grand nombre. Parce qu'on s'entend-tu, Mario, des amendes impayées, ça prend un bout là, avant que tu puisses plus conduire en plus avec ton permis. Et là, on a retrouvé en plus de la méthamphétamine dans son véhicule à ce moment-là. Il a avoué au policier qu'il avait besoin de prendre de la speed pour fonctionner, pour l'aider à fonctionner dans vie. Et là, ben, il a subi une thérapie fermée de 6 mois pour arrêter de consommer de la méthamphétamine, semble-t-il. Le problème, c'est qu'en février dernier, il est entré à l'entrée du palais de justice de Laval puis il y avait du hashish sur lui. Fait que c'est comme refait
toujours bon,
poignée.
Oui. Rentrer au palais de justice, tu traînes un petit peu de drogue illégale, ça a toujours sa place.
Oui, c'est sincèrement excessivement étonnant, mais bon, ça a été fait. Et là, ben, est condamné quand même de la prison ferme là, pour un accident comme celui-là dans lequel l'alcool n'est pas impliqué. Oui, c'est, ça frappe, mais on comprend pourquoi.
Actualité.
C'est beau, hein, le temps qui se réchauffe, Mario, à Montréal. C'est
un hiver
beau.
Doux.
Un hiver doux.
Ça gèle, ça dégèle.
Ça gèle, ça dégèle. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là aussi? Ben, il y a des déchets partout. On en a parlé cette semaine. Ah, les nids de poules, Mario. J'allais oublier les nids de poules. Ben oui, parce que c'est une année record en 5 ans à Montréal pour le signalement des nids de poules qui sont évidemment affectés, on se comprend, par le gel-dégel là, qu'on vient d'évoquer de manière un peu humoristique. Mais quand même, là, c'est vraiment ça qui vient impacter. On est en ce moment à 2328 signalements seulement pour janvier et février. C'est 900 de plus de signalements pour janvier et février là, en 2023 en comparaison. Donc, on est dans une période achalandée, Mario. Soit les gens remarquent plus, soit il y en a plus.
Non, ben, regarde, le fond des routes est dans un état déplorable. Donc, à partir de là, si t'as un hiver qui a des dégels, si t'as un hiver qui a des redoux, il arrive ça. Là. C'est comme un automatiste. Là. Le fond de la route étant... c'est déjà en bonne partie... du patchage. Fait que faut pas. On ne peut plus s'étonner. C'est drôle parce que ce matin, nos collègues là, posaient la question aux automobilistes là, sur les nids de poule avec cette étude-là, cette manchette-là. Puis il y a une madame qui disait mais de toute façon, moi je reste en banlieue. Là. Elle était à Montréal, on l'interrogeait à Montréal. Elle dit, je suis venu à Montréal aujourd'hui vraiment parce que j'ai un rendez-vous. Je suis vraiment, vraiment obligé. Là. Mais elle dit, nous, là, on vient plus à Montréal. On veut plus venir à Montréal. C'est juste des comptes, c'est juste des trous. Je disais, c'est quand même drôle parce que c'était pas... Sans joke, là, il y a 25 ans, c'était pas ça. Les gens de la banlieue disaient, ce qui est le fun de vivre à banlieue, c'est que t'es proche de Montréal.
Ben oui, tu peux venir dans la ville.
Tu vas aller au Centre Bell, tu vas aller voir un spectacle. T'es à côté de Montréal. Il y a quand même un changement de discours là, où des gens disent, pas que les gens aiment pas les institutions à Montréal, ce qu'il y aura à faire, ce qu'il y aura à voir. C'est Montréal elle-même, la ville. Là, le fait d'y circuler, d'y stationner, c'est devenu un cauchemar.
Oui, un véritable cauchemar pour bien des gens. Surtout que le cauchemar, c'est pas juste l'augmentation du nombre de nids de poules, parce que ça vient qu'autre chose. Augmentation du nombre de bris de ton auto aussi. Hein? Si tu prends pas les transports en commun puis tu décides de venir à Montréal en auto, ben, y a des chances que tu tombes dans un des nids de poules mentionnés ici haut. Puis que tu finisses par péter ton char, on va se le dire comme ça. Et c'est des prix, évidemment, avec l'inflation qui a augmenté chez les mécaniciens. On dit que les garagistes sont débordés par les temps qui courent parce qu'il y a des gens qui brisent des radiateurs, des mufflers, de la suspension, envoyés donc dans les trous et les nids de poule qu'on retrouve à Montréal. Puis là, du côté de la ville, on se défend en disant « Ouais, c'est vraiment le temps doux qui vient causer plus de tout ça. »
Mais l'école bleue sont au travail.
On parle
c'est
dans
toujours
les,
la réponse.
Dans les 10 prochaines années, on prévoit investir 841 millions de dollars pour aller faire du patchage de nos trous. Le problème, c'est que selon l'expert Alan Carter, là, qui est professeur au département de génie construction de l'école de technologie supérieure de l'ETS, lui dit « Ouais, c'est bien beau, mais comme on est encore en train de rattraper des dégâts d'il y a avant. » On n'est pas en ce moment en train de régler les nouveaux nids de poule. On est en mode rattrapage. Puis ça va prendre encore plus d'argent que tout ça, alors que le montant que je viens de mentionner, c'est quasiment le prix du toit du stade. Donc, ouais, les nids de poule aussi, ça coûte cher.
Économie.
Oh, que j'espère pour toi que t'as pas vendu tes bitcoins trop tôt, Mario.
T'en ai pas beaucoup.
T'en as pas beaucoup, mais là,
ça
t'attends.
Ça affecte pas beaucoup mes finances personnelles.
Mais là, t'attends encore? Oui, t'espères?
J'ai décidé que le peu que j'ai, je garde ça pour l'éternité. Là.
Pour l'éternité?
Ça va monter, mon année. Je vais peut-être être riche avec ça. Je vais avoir mis quelques cent piastres pour finir avec des dizaines de milliers, des centaines, je sais pas.
Ben, ça reste à voir, mais en tout cas, pour l'instant, ce serait un bon moment pour encaisser de l'argent si vous en avez mis beaucoup dans le Bitcoin, parce qu'on est à un nouveau record historique. Oui, on le sait, dans les dernières années, le Bitcoin, c'était plus la manne que c'était. Hein? On parlait d'un produit qui s'essoufflait.
Non, mais c'est parce que ça fluctue en fou, là. Oui. Ça fluctue.
On se comprend.
N'investissez pas dans le Bitcoin si c'est de l'argent que vous avez besoin pour votre épicerie.
Oui, parce qu'il a franchi la barre des 70 000 $ US là, pour la première fois de son histoire.
Il s'était rendu à 67, je pense, 8 avant la montée d'avant 2021.
Oui, exact.
Il est redescendu jusqu'à quasiment 16. Pour donner une idée, là, c'est monté jusqu'à 67 000, c'est redescendu à 16, puis là, c'est remonté à 70 000.
Oui, puis là, déjà, là, juste en 2024, en ce moment, ça s'est envolé de 60 % là, le cours du Bitcoin. On se comprend, on est au mois de mars, au début du mois de mars. C'est fou. Moi là, ma question, Mario, là, dans ta perspective d'économiste... Là,
ben, tu comprends, j'ai aucune explication.
Jamais, hein? Tu peux pas t'imaginer ça il y a
réponse,
quelques années.
Non, mais la réponse niaiseuse, c'est l'offre et de la demande. En bout de ligne, c'est l'offre et de la demande pour des bitcoins qui fait que là, il y a de la demande pour... Mais on sait pas trop ce que c'est. Là. C'est un moyen de paiement. En même temps, oui, c'est une valeur pour accumuler de l'argent. Mais à ce compte-là, Nick essaie de comparer au lingot d'or. Tu sais, la valeur d'un lingot d'or pour accumuler de l'argent, pour amener l'or monte, l'or baisse. Mais le Bitcoin, là, c'est vraiment... Fait que c'est pour ça que ça vaut... La seule réponse, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour.
Voilà, puis...
Comme d'autres choses.
Mais pour les experts, ils disent que c'est un appétit renouvelé en ce moment pour le goût du risque.
Là, je disais aujourd'hui, les gens qui ont la foi, là, qui aiment les défenseurs du Bitcoin, ils disent... On pourrait voir 100 000 piastres, la valeur de 70 000 aujourd'hui pourrait monter à 100 000 avant la fin de l'année.
Mais le Bitcoin...
En même temps, ils ne savent pas, ça va peut-être être 32 000 à la fin de l'année. Ça va peut-être avoir coupé de moitié. Là.
Mais ça revient toujours, comme tu le dis, c'est la foi. C'est drôle parce que des mouvements comme ça pour un produit comme le Bitcoin, On se comprend, là, c'est un produit d'époque, mais ça n'existerait pas sans les réseaux sociaux.
Parce qu'Alexandre, t'achètes, mettons, des actions de, je sais pas, t'achètes des actions de Coca-Cola. Mais c'est basé sur le fait que t'es propriétaire d'une micro-partie de la compagnie. Là. Toi, t'achètes une action de Coca-Cola, là, t'es un mini actionnaire, mais t'es actionnaire de Coke. Là. Donc, tu bases la valeur de l'action sur le fait que Coke vend du Coke, vend toutes sortes d'autres produits, des jus, puis des toutes sortes de breuvages. Avec ça, ils font de l'argent, ils font des profits, donc il y a une valeur. Toi, être actionnaire de cette compagnie-là, t'as acheté quelque chose de concret. Tu comprends? Oui. Tu comprends ce dont t'es propriétaire. Le Bitcoin, c'est comme...
Oui, c'est de
on
l'air.
On comprend
c'est
un peu, vide. On comprend, parce que tu peux payer des choses en Bitcoin. On comprend que c'est une monnaie d'échange, mais... Pourquoi ça valait 16 000, ça vaut 70 000? J'ai pas de meilleure réponse que ça vaut. La loi de l'offre et de la demande. Que ça... T'es toi, tu le vends aujourd'hui. Là, pourquoi il vaut 70 000? Parce que quelqu'un est prêt à te l'acheter pour 70 000. En passant, quand on dit ça pour les gens pas familiers, la plupart des gens, c'est que t'as pas un bitcoin. Les gens, mettons qu'ils en ont pour 700 piastres aujourd'hui, ils ont un centième de bitcoin. Là, ben c'est le principe, c'est que t'en as une fraction. Ça se vend, ça se découpe par fraction.
Oui, ça c'est le prix d'un bitcoin. Puis rassurez-vous, là, il est censé y avoir un maximum de 21 millions de bitcoins dans le monde. Vous possédez une partie d'un des millions de bitcoins.
Le monde.
Joe Biden a dû boire 2-3 Red Bull hier, Mario, avant de se lancer dans son discours sur l'état de l'Union. En tout cas, c'est ce qu'on plaisantait aujourd'hui au bureau, mais de manière plus sérieuse.
Ma blague, moi, c'est qu'hier, ils l'ont mis toute la... Tu sais, comme un téléphone, ils l'ont mis toute la journée sur la charge.
Oh!
Hier, ils l'ont laissé toute la journée sur...
Dans le lit, il dormait tout le long.
Non,
là.
Ben, il était sur la charge. Là. Fait que quand il a commencé son discours, il était à 100%.
Oui.
Comme ta batterie de sel le matin. Il a commencé son discours 100%, full énergie.
Mais c'est vidé, puis aujourd'hui, il a dû dormir toute la journée pour se recharger.
Mais il était bon, là. Il était remarquablement bon, drôle, vif d'esprit. Il attaquait les républicains là, qui répliquaient, qui criaient des affaires sur le parquet.
Oui, puis du côté des historiens là, de la politique américaine, on va reconnaître là, Joe Biden des vieux jours, là, puis des beaux jours, je veux dire comme ça, parce qu'il a toujours été reconnu comme un orateur vraiment habile là, dans l'hémicycle là, aux États-Unis. Quelqu'un qui était vraiment capable là, de faire preuve là, de non-partisanerie, d'aller chercher les gens de l'autre côté du Parti républicain, d'être capable de faire des blagues, bon sens de l'humour. Puis c'est vraiment là, à son meilleur qu'on l'a vu hier. Et bien évidemment, sans jamais nommer directement de son nom Donald Trump, mais il est allé...
My predecessor,
mon prédécesseur, celui qui venait avant moi, l'ex-président républicain. Il a utilisé toutes les formulations pour désigner Donald Trump sans jamais citer son nom. Mais soyons clairs, c'est vraiment une charge frontale qui est effectuée contre M. Trump qui va être, là, on se comprend, son adversaire dans le match revanche à venir.
M. Trump qui a eu un petit ennui, là, il avait promis de répondre en direct là, à ce qu'allait dire Biden puis aux faussetés de Biden sur Truth Social, son réseau social à lui.
Oui.
Qui était en panne.
Ça va mal dans ce temps-là, hein? Ça va mal pour répondre quand tu refuses de revenir sur Twitter.
Je comprends pas le The Best Social Network on Earth.
Ben oui, maybe ever.
Le meilleur réseau social du monde, là. Tout ce qui touche, c'est le meilleur au monde.
Mais quand il a réagi, Mario, je dois t'avouer qu'on a eu encore une fois un petit fou rire ici au studio parce que qu'est-ce qui est sorti? Ça ressemblait à comment ose-t-il, il a l'air d'un enragé d'attaquer quelqu'un d'aussi calme que moi.
Ouais, parce que lui, attaquer les autres, Trump fait pas ça.
Il fait jamais ça. Bon, il lève jamais le ton.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.